Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous revoilà en studio pour une nouvelle interview hebdomadaire. On va prendre des nouvelles de du diocèse et puis de vos nouvelles aussi, Monseigneur Mika. Vous étiez en début de semaine en visite pastorale. C'était l'avant-dernière visite pastorale. Vous avez visité les territoires de l'Estrême de Sales et du Val d'Azun, deux territoires a priori qui sont assez différents, mais qui forment une même réalité pastorale. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette visite ?
Alors, c'est une même réalité pastorale. On parle de l'ensemble paroissial Estrême de Sales et Val d'Azun. Deux régions, en effet, séparées, si j'ose dire, ou reliées par la ville d'Argelès, puisque l'Estrême de Sales est avant Argelès en venant de Lourdes, et le Val d'Azun, ben, c'est la montée du col de l'Aubisque après Argelès. Il y a quelques mois, donc, le père Gustave a quitté la résidence du presbytère d'Agos Vidalos au service, et il était curé de cet ensemble paroissial. Et désormais, cet ensemble paroissial est sous la responsabilité de l'abbé Dominique Aubian, qui est aussi curé de l'ensemble paroissial d'Argelès. Et donc, j'avais fait la visite pastorale d'Argelès il y a déjà un petit moment. Et puis voilà, donc là, c'était autour de l'ensemble paroissial Estrême de Sales Val d'Azun, deux journées, une centrée sur l'Estrême de Sales et une autre sur le Val d'Azun, accompagnée par l'équipe commune qui anime la communauté paroissiale de cet ensemble. Et voilà, un moment, comme d'habitude, je dirais, de rencontre d'abord avec les acteurs de la communauté paroissiale, EAP et diverses personnes engagées, et ensuite des découvertes, visites dans des réalités associatives, entreprises, une très belle entreprise là qu'on a visitée à Agos Vidalos, et puis associative, et de très belles associations rencontrées aussi dans le Val d'Azun.
Voilà, des associations que les chrétiens engagés côtoient aussi, fréquentent. Enfin, il n'y a pas de monde, ou alors il y a de monde, mais il y a de monde qui se parlent, en tous les cas.
Les gens habitent oui. Les villages, habitent les vallées, et les chrétiens sont, pas tous sans doute, mais enfin, voilà, comme les autres, engagés, soit politiquement, soit dans des associations. Et évidemment, les rencontres avec les élus aussi font partie du programme des visites pastorales. Et donc, on a eu un bon échange. L'un ou l'autre maire a accueilli la visite pastorale dans les locaux de sa mairie, mais il y a eu aussi un temps d'échange avec les maires qui étaient tous invités à partager ce moment. Et c'est toujours très très important pour moi que de rencontrer les maires et les élus en général.
Pour parler notamment du patrimoine religieux, de la gestion. Là, l'été arrive, donc il y a la question des concerts dans les églises qui va se poser. C'est une question qu'ils ont aussi dans leur tête.
Enfin, bien sûr, parce qu'il y a un certain nombre de très très belles églises dans ces vallées et qui sont sollicitées par des musiciens, par des organisateurs de concerts. Et parfois, il peut arriver ici ou là, en France, dans le régime de séparation que nous connaissons, où les mairies sont propriétaires des églises, mais le culte catholique affectataire de ces mêmes églises, qu'il y ait parfois une petite incompréhension des règles, des procédures pour organiser une manifestation dans l'église qui est affectée au culte. Et voilà, donc c'est l'occasion chaque fois de parler de ce genre de choses pour rappeler les règles, les raisons du oui, les raisons du non, le désir de dire oui à un certain nombre d'organisations, de manifestations culturelles, etc., quand c'est opportun, et c'est souvent le cas. Ils ont d'ailleurs sur place, dans la paroisse, décidé la création d'un comité agriculture qui est commun avec Argelès et Estrême de Sales Val d'Azun, justement qui reçoit les demandes, qui était désigné aux différents acteurs, mairies, organisateurs de concerts, musiciens, etc., comité des fêtes et autres, pour être ceux à qui il faut s'adresser pour prévoir une organisation de concerts, par exemple, ou d'expositions ou autres. Et c'est beaucoup plus facile pour eux d'objectiver une réponse parce que ils connaissent les situations, ils connaissent les gens, ils connaissent les lieux, ils sont de là et ils restent. Et ils peuvent accompagner beaucoup plus facilement la fluidité nécessaire pour que les choses se passent paisiblement et de manière heureuse pour tous.
Alors j'ai remarqué que dans ces échanges avec les élus, notamment les maires des petits villages, village, souvent ils se livrent aussi sur les défis, les difficultés, l'engagement que ça représente dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, d'avoir du temps pour vraiment servir les habitants de leur village. J'ai l'impression que plus on avance, peut-être plus on se rapproche de l'échéance des prochaines élections municipales, et plus ils profitent de votre passage pour vraiment s'épancher sur leurs soucis, en fait.
J'observe que plus d'une fois, quand ils partagent leur quotidien, dans une relation vraiment de confiance et je dirais presque d'amitié, enfin on ne se connaît oui. pas, hein, mais vraiment une vraie, d'homme à homme, mais facile. J'aperçois quelquefois un peu d'humidité dans les yeux de telle ou telle mère à l'évocation de situations particulièrement difficiles dans l'exercice de leur service. Et j'emploie ce mot à dessein parce que c'est réellement comme ça que la plupart abordent leur, en tout cas ceux que je rencontre tous, abordent leur responsabilité. Dans des petits villages comme ça, on sait comment ça se passe, hein, le maire est celui vers qui tout le monde se tourne pour et tout, oui. et qui de fait se met en 4, en 8 pour rendre service, en étant pris dans toutes sortes de contraintes juridiques, administratives et parfois judiciaires, malgré lui, parce que sa responsabilité personnelle est engagée s'il arrive un accident et que tel ou tel aspect de prudence ou de règle n'a pas été strictement mis en place ou respecté. Et voilà, la menace est là en permanence et je sens que j'ai senti l'évocation de quelques incidents possibles ou connus pour d'autres maires dans le département, et bien que c'est des choses qui... Il y a de l'émotion, vraiment une vraie émotion. Et c'est des gens donnés, quoi. Hein. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Je n'ai pas sûr que tout le monde se rende bien compte de l'investissement vraiment de ces hommes et de ces femmes au service de la collectivité. Et je pense qu'ils sentent du côté du prêtre, du côté des laïcs engagés, quelque chose qui peut ressembler à l'engagement de leur équipe et d'eux-mêmes.
D'ailleurs, ils le disent parfois. Hein.
Enfin, et du coup, même s'ils n'ont pas la foi tous, il y a une espèce de compréhension. Oui. Des défis, des enjeux et de cet engagement qui leur est finalement commun à tous.
Alors au cours de cette visite pastorale, vous êtes aussi allé découvrir l'EHPAD d'Aizac, c'est un petit village dans ce territoire. Et puis là, alors bien sûr, la rencontre avec les résidents, mais aussi une rencontre et un échange assez spontané avec l'équipe de direction, la directrice et puis la cadre de santé. Alors c'était l'occasion de parler de la question de la fin de vie. Alors ça tombe bien, si je puis dire, puisque cette semaine précisément, les députés ont adopté ce mercredi 21 mai les modalités selon lesquelles une personne pourra demander une aide à mourir à un médecin. Cet article adopté par 164 voix pour et 103 contre prévoit que 5 conditions cumulatives soient requises pour qu'un malade puisse être éligible au droit à l'aide à mourir. Alors je rappelle ces conditions qu'on avait déjà évoquées. Le patient doit avoir 18 ans minimum, il doit aussi être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Il doit être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital. Le patient doit aussi présenter une souffrance physique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne. Et enfin, la dernière condition prévoit que le patient soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Alors nous, on a déjà évoqué ce thème de la fin de vie il y a quelques jours avec vous, Monseigneur. Vous avez déjà clairement exprimé vos craintes, votre position. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être de constater que dans vos échanges avec des soignants, et c'était le cas dans l'EHPAD d'Isaac cette semaine, eh bien souvent, les soignants et l'Église se retrouvent un peu dans une même vision sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la fin de vie.
Moi, ça m'impressionne beaucoup, en effet, de constater que parmi ceux qui montent de manière très très forte au créneau, il y a les gens qui sont de l'Église catholique, protestante, etc., mais aussi des communautés d'autres religions, hein, ouais. Juives et protestantes et musulmanes, mais également, de manière vraiment vraiment forte, les soignants.
Ouais.
Et les soignants qui ne se réfèrent pas à l'anthropologie chrétienne, à la foi, pour pour expliquer leur position. Ils sont des soignants, ils sont des gens qui donnent la vie, qui soignent la vie, qui accompagnent la vie, et il y a en eux quelque chose qui résiste très très fortement à un geste qui est contraire à ce pourquoi ils ont engagé leur vie professionnelle, mais souvent intérieure aussi. Et ils savent également que d'autres pays ont pris des dispositions analogues législatives il y a de nombreuses années pour les pays du nord de l'Europe, certains pays du nord de l'Europe, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, d'autres de manière plus récente, comme l'Espagne par exemple. Mais on sait aussi que les critères sur lesquels les députés ont voté, tout le monde peut être pour, évidemment, mais surtout si on diffuse régulièrement dans la période des reportages sur la souffrance insupportable des gens qui sont atteints de la maladie de Charcot, par exemple.
Personne n'a envie de souffrir et personne n'a envie de voir. Tout
le monde est évidemment extrêmement sensible à ces situations insolubles. Bon. Mais ils savent aussi que dans tous ces pays, les repères ont tous volé en éclats au fil des ans.
Les repères, ça veut dire les conditions que j'ai évoquées.
Les conditions indiquées, parce que l'administration n'aura pas les moyens de constituer les comités médicaux requis, etc., etc., qu'il faut aller très vite, qu'il faut décider très vite, et que la souffrance de physique, une maladie incurable, etc., réfractaire au traitement, eh bien, on va vers les maladies d'ordre plus psychologique ou des souffrances d'ordre psychologique et qui sont estimées tout aussi insupportables également. Et donc, on fait voler tous les critères. En tout cas, c'est ce que l'expérience montre dans les pays qui ont déjà pris ces dispositions. Et c'est pourquoi, vraiment, pour ce qui concerne l'Église, la défense de la vie, d'une part, mais aussi de la personne vulnérable, faible, fragile, d'autre part, par ceux qui vont bien, la défense des faibles par les forts, quoi, voilà, est un principe majeur pour notre foi et qui va avec celui de la vie. Et donc, il faut engager de l'énergie, de l'argent, des efforts dans l'amélioration de l'accompagnement de la vie et de la dignité de la vie jusqu'au bout.
Donc avec les soins palliatifs, notamment.
Et la vie est digne jusqu'au bout, vraiment. Mais là, on engage énormément d'énergie pour faire valider des actes qui, finalement, se désengagent de l'accompagnement de la vie. Alors, je suis peut-être sévère en disant ça, parce que je suis absolument convaincu que les personnes qui promeuvent la loi et ses dispositions le font sincèrement, convaincues que c'est un accompagnement de la vie et une aide pour les personnes qui sont en souffrance.
Ah ben ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un problème de vision de ce qu'est la vie, de ce que doit être la vie.
Et de ce qu'est la dignité de la personne. Voilà. Et alors après, évidemment, on ne va pas faire un procès d'intention, mais enfin,
oui, mais justement,
personne n'ignore
disent
qu'il y a aussi des raisons économiques derrière ces promotions, avec des arguments qui peuvent être tout à fait recevables, entendables, la souffrance des gens, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer les raisons strictement économiques qui font qu'on fait aussi ce genre de promotion. C'est beaucoup moins cher une injection et l'accompagnement d'une personne sur quelques semaines et quelques centaines d'euros que l'accompagner au long cours un malade qui en soi ne va pas mourir dans les jours qui viennent.
La conférence des évêques de France a appelé les catholiques à interpeller, notamment via les réseaux sociaux, via les outils numériques, les députés, les sénateurs, pour faire pression. Alors peut-être que parmi certains catholiques, c'est facile de le faire et qu'ils l'ont déjà fait, en y croyant, en n'y croyant pas. Et puis d'autres se disent, mais moi je me sens pas de le faire, je vais prier et puis les choses vont s'arranger. Alors bon, c'est pas évident non plus
de s'emparer des réseaux sociaux. Il faut prier pour demander à Dieu que la sagesse l'emporte et la sagesse humaine l'emporte, voilà, et que la raison l'emporte sur, je ne veux blesser personne en disant cela, mais sur de l'émotion facile. Enfin, évidemment, mon propos peut être détourné et puis être extrêmement blessant, parce que on ne peut qu'être ému de la souffrance réelle de personnes qui sont dans des situations absolument épouvantables. Mais il y a un enjeu pour l'humanité qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, dépasse cela. Et ça, il faut avoir du recul, il faut de la sagesse, de la raison et du calme pour pouvoir l'apprécier à sa juste mesure et avoir conscience que des lois engagent l'humanité et sur des principes fondamentaux de ce qui établit sa dignité, son identité profonde. Et ce n'est pas simplement une question d'opinion religieuse.
Merci pour vos réponses sur ce point-là, Mgr Mika. Alors, on indique quand même que le vote sur l'ensemble du texte en première lecture est prévu le mardi 27 mai, donc dans quelques jours. Et il y a quelques 1100 amendements qui sont encore en discussion. Voilà, on invite aussi tous les catholiques, là, tous les auditeurs de Radio Présence à se rendre sur le site de l'Église de France pour
se renseigner. Il faut vraiment se renseigner, voilà. Vraiment mesurer les enjeux, parce que je suis sûr que beaucoup, beaucoup de catholiques sont d'accord avec ces projets de loi, etc. Et donc, il est de notre devoir vraiment de pasteurs et de responsables de la communauté catholique, de dire qu'au nom de la foi, on a le devoir profond de se renseigner de manière sérieuse et pas simplement se laisser porter par l'air du temps, par une émotion sincère, encore une fois, devant des situations terribles. Mais il faut vraiment s'informer, se former et se forger une opinion guidée, éclairée par la foi.
Merci beaucoup, Mgr Mika. Alors, on termine cet entretien peut-être en disant que cette semaine, vous êtes allé à Garaison pour la confirmation de plusieurs jeunes. Ce week-end, c'est encore d'autres confirmations du côté de Orlex, en périphérie de Tarbes. Et la semaine prochaine, vous serez pour la dernière visite pastorale. Dans quel coin du diocèse ?
Le Pays Toil.
Le Pays Toil. Lui, c'est le Pays Toil. Voilà, mais les journées passent, ne se ressemblent pas et sont toujours aussi intensives.
Et bien sûr, on se prépare à la cathédrale, à la confirmation des adultes, à la veille, Vigile de Pentecôte.
Merci beaucoup, Mgr Mika. On se retrouve la semaine prochaine alors que vous serez en Pays Toil.
Merci. Merci, bonne semaine à tous.